Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Sporama. Suivez Afrique et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir. Avec nous aussi Élisée Nkpatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les amis sportifs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amdine Si dans l'Ohio ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, je suis bel et bien à Dakar. Hein. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et bonsoir également à Amine Birouk depuis Casa. Amine, comment ça va?
Très bien, vous.
Merci bien. Nous aurons aussi une réaction depuis Sfax en Tunisie avec Khalfa Ouattara, notre confrère de la télévision nationale du Burkina qui s'y trouve présentement. Khalfa Ouattara, bonsoir.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous les auditeurs de VOA.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. On commence par la troisième journée de la phase de groupe de la Coupe CAF. Après deux matchs nuls, le Raja Casablanca s'est incliné face à ses compatriotes de la RS Berkane, 4-2 à Rabat. Match donc délocalisé, grosse déception pour les Rajaouis, comme nous le dit Patrice Carteron, l'entraîneur qu'on écoute.
Je viens de dire aux joueurs à l'issue du match qu'on n'a pas le temps de pleurer sur notre sort, on n'a pas le temps de pleurer tout court, on se doit de réagir. On a fait un bon match, on a raté l'ouverture du score après 2-3 minutes de jeu et globalement dans ce match-là on a eu quelques réactions par moment, mais c'est un match qui n'a pas été du tout maîtrisé, donc une défaite lourde mais logique compte tenu de notre manque de maîtrise complète sur ce match-là. On s'est beaucoup trop énervé, on a été déstabilisé sur le terrain au lieu de rester calme, de penser à jouer, de penser à produire du jeu. Je trouve qu'on a été dans la réaction au niveau tempérament, on a été trop friable sur ce match-là.
Des propos recueillis par Amine Birouk. Alors Amine, ça commence vraiment, disons, à devenir inquiétant pour le tenant du titre.
Ça sent le rouge pour le tenant du titre. Autant ces deux premiers matchs nuls pouvaient ressembler comme de gouttes d'eau au tableau de marche de la précédente édition, le Raja, après avoir démarré en mode diesel avec deux matchs nuls, avait pu accélérer par la suite. Là, contre la Renaissance sportive de Berkane, on a vu une équipe méconnaissable. On a vu surtout une équipe de Berkane qui maîtrisait beaucoup mieux son sujet. Une équipe consciente de ses points forts, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés, la puissance de son attaquant de pointe, Labako Djoul, Togolé, l'expérience d'Alain Traoré qui aurait pu apporter beaucoup plus s'il n'avait pas été blessé en cours de match, et puis une sérieuse rigueur défensive. C'est une équipe qui est en train de gagner en maturité, comme le prouve son titre en Coupe du Trône au mois de novembre dernier, son quart de finale de la Coupe de la CAF, et aujourd'hui c'est une équipe qui pense à une dimension supérieure. Autant Berkane a maîtrisé son sujet, autant le Raja a paru friable. Le Raja avec de nombreux joueurs suspendus ou blessés et un fond d'armoire ou un fond de tiroir plutôt vide ou plutôt manquant d'expérience. Le Raja n'a pas la profondeur de banc de touche des précédentes éditions des compétitions africaines. Et aujourd'hui, le club le pécache en raison de l'enchaînement des confrontations. Le club était engagé dans le championnat marocain, il était engagé en Coupe d'Arabie, il vient d'être éliminé, et en Coupe de la CAF, et visiblement, il va devoir faire des choix pour pouvoir viser son principal objectif, finir dans les deux premiers du championnat marocain et se qualifier pour une Champions League qui le fuit depuis de très nombreuses années. Pour l'instant, Berkane prend une option sur la qualification en quart de finale, le Raja est dans les cordes.
Merci bien, Amine. Berkane, justement, qui devient le leader solide de ce groupe A avec 7 points, devant Hassania Agadir, qui est venu à bout des Congolais de Otoho, victoire 2-1. Amine, on reste avec vous. Ces difficultés du Raja profitent en quelque sorte à Hassania, qui fait son petit bonhomme de chemin dans ce groupe-là.
Et le Hassania, qui après avoir démarré par un match chez lui, une défaite à Berkane fort injuste, puisque le but de Berkane était un hors-jeu des plus évidents, a su se retrouver de Otoho Doyo, qui avait réussi à grappiller un point contre Berkane et un autre contre le Raja de Casablanca, le deuxième match en déplacement.
Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir la rencontre se décanter pour le troisième du championnat marocain, Hassan El Agadir, qui vit sa première expérience en phase de groupe de la Coupe de la CAF. Deux buts de l'arrière-central Yassine Rami, une fin de match plutôt maîtrisée qui permet au Hassania de se déplacer au Congo dimanche prochain avec l'ambition d'aller ramener un résultat et de poursuivre son petit bonhomme de chemin dans cette compétition. Dans le football marocain, on table sur la qualification de deux clubs du royaume chérifien. On croyait visiblement que ce serait le Raja et Berkane. Et pourquoi pas maintenant le Hassania El Agadir qui a démarré la compétition en outsider et qui va gagner en maturité au fur et à mesure des matchs. Et puis, comme l'appétit vient en mangeant.
On espère bien que le Hassania El Agadir, bien sûr, ira le plus loin possible, comme l'appétit vient en mangeant, comme le disait tout à l'heure Amine. Alors, dans le groupe B, l'étoile du Sahel a dominé les Nigérians et Enugu Rangers à Sousse 2-1. Alors, Élysée, après une entame compliquée, un point en deux matchs, eh bien, l'étoile du Sahel a enfin remporté son premier match dans ce groupe B-là.
Bien évidemment, hein, grâce à Isakni et Ben Aziza, hein, qui ont été excellents durant cette explication. Maintenant, les Nigériens aussi avaient raté l'occasion de prendre l'avantage au moment où, puisque les Nigériens qui ont ouvert le score, je rappelle très bien, puisque c'était Sila Sinké a été le premier à marquer le but. Et puis, les Tunisiens, grâce à un entraîneur expérimenté que vous connaissez très bien, Roger Lemaire, hein, qui a topé le moral à ses joueurs et en fin de partie, l'étoile du Sahel s'est bien retrouvée à plus comme les 3.7 esprits. La suite, hein, puisque très prochainement cette équipe ira dans un difficile déplacement du côté de Nougou, dans l'est du Nigeria, pour aller jouer contre cette équipe de Rangers, cette équipe qui est intraitable à domicile. En tout cas, c'est une très belle victoire enregistrée par Roger Lemaire, puisque c'est un groupe très serré actuellement. Le club Soissien qui a 5 points et Nougou Rangers qui a 4 points. Donc, c'est dit que ça va se jouer très prochainement lors de la quatrième journée.
Merci bien, Élysée. Dans l'autre match du groupe B, le CS Sfaxien a été tenu en échec par les Burkinabés de Salitas 0-0. Alors, Kalfa Ouattara, vous avez suivi ce match et vous êtes même toujours à Sfax. Hein. Des regrets, on va dire, dans un camp comme dans l'autre.
Oui, tout à fait. Il faut dire que cette équipe de Salitas qui avait à cœur de pouvoir remporter les 3 points et se relancer dans ce groupe a été finalement contraint de partager les points de nul avant le match de du côté de Ouattara. Il y a pas été le dit et l'équipe de Burkinabé est venue ici avec beaucoup d'handicap parce qu'il y avait des blessés dans son rang, mais parce que l'équipe a pu montrer un bon visage de jeu et puis réutiliser à la 60e minute et toujours à travers les gorges. Mais la lucienne Salitas en tout cas arracher les 3 points pour le match de nul et dimanche prochain.
Alors, Kalfa, ce match nul, vous le disiez tout à l'heure, permet aux Burkinabés d'engranger leur deuxième point dans cette compétition avant la quatrième journée, le week-end prochain à Ouagadougou. Comment est le moral des troupes?
Oui, il faut dire que c'est déjà, et ce match nul donne encore du bon au cœur dans cette équipe des Colombes de Salitas et une façon pour cette équipe de pouvoir envisager plus sereinement le match retour parce qu'ici à Sfaxien, il y avait l'handicap, des handicaps majeurs, il y avait le froid qui se vit actuellement et qui contraste avec le climat qui fait du côté de Ouagadougou. Et en plus de ça, il y avait une sécurité dont je parlais tantôt. C'est une équipe du milieu qui est arrivée ici à Sfax, c'est une équipe déterminée de Salitas et qui entend récupérer les blessés et pouvoir arracher les 3 points nécessaires véritablement et à la survie en tout cas de l'équipe de Salitas dans les blessés.
Merci bien, Kalfa Ouattara. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la télévision nationale du Burkina Faso et que vous êtes présentement à Sfax en Tunisie, donc, pour ce match Sfax, CS Sfaxien Salitas du Burkina Faso. On vous souhaite un excellent retour chez vous à Ouagadougou. Alors, dans le groupe C, Amdine, les Zambiens de Nkana dominent grâce à leur succès 3-1 sur les derniers, on va dire, les Ghanéens d'Asante Kotoko.
Tout à fait, les Zambiens ont frappé un grand coup en dominant les Ghanéens d'Asante Sokoto de Koumassi sur le score de 3-1. D'ailleurs, cette victoire permet aux Zambiens d'occuper seule la place de leader de ce groupe C avec 6 points. Mais Yacouba, il faut savoir que c'est un groupe très ouvert, hein, puisque quand on regarde le classement, à part le leader, les équipes sont à égalité avec 4 points, donc ça reste ouvert. Comme c'est seulement les matchs allés qui viennent de se terminer,
Attendons quand même les matchs pour voir comment cela va se passer, Yacouba.
Dans le groupe D, le Zamalek du Caire n'avance toujours pas. Alors Jules, le monument égyptien occupe toujours la dernière place du groupe après son nouveau nul. Hein. Un but partout face aux Angolais de Petro de Luanda. Qu'est-ce qui ne va pas?
Oui, mais là, on sent vraiment que le Zamalek a adopté le mode diesel et qu'il a du mal à démarrer. Et ce qui profite largement au Gormaya, qui, ma foi, nous étonne encore plus. Mais si Zamalek a du mal à démarrer, c'est surtout parce que l'équipe ne se libère pas totalement. On voit que cette équipe, quand elle évolue trop dans le sens latéral, la conservation du ballon, ben, il n'y a pas réellement des accélérations qui peuvent provoquer le contre-pied. Et finalement, c'est du beau spectacle stérile, mais il n'y a pas, en fin de compte, de victoire. Parce que nous savons que dans ces phases de poule, mieux vaut avoir une victoire et deux défaites plutôt que trois nuls.
Merci bien, Jules. On croit bien sûr que les Égyptiens du Zamalek vous ont bien entendu. Les Kenyans de Gormaya dominent cette poule après leur victoire de 2-0 face aux Algériens de Hussein D. En Ligue des Champions, réintégré dans le groupe C, Ismaili a été contraint au partage des points 1-1 à Alexandrie par le CS Constantine dans un match en retard comptant pour la troisième journée. Alors Thierry, ce point arraché permet aux Algériens de rejoindre le TP Mazembe en tête du groupe avec 7 points en attendant le match retour qu'ils vont jouer à domicile samedi prochain.
Absolument, tout est relancé dans ce groupe. De toutes les façons, avec le retour de la formation d'Ismaili, on s'attendait à ce que les débats soient complètement relancés avec le tout-puissant Mazembe Anglebert qui s'est vu rejoindre justement par les Algériens. Et la rencontre, la prochaine, entre ces deux formations s'annonce très, 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 très alléchante, d'autant plus que le tout-puissant Mazembe est en train de se préparer, d'affûter ses armes en championnat. Les Corbeaux qui sont allés gagner un match très très important en Mbujimayi contre Sa Majesté Sangabalende, l'un des favoris de ce championnat. Donc Mazembe est prêt et les prochaines rencontres s'annoncent dans ce groupe très 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 décisives avec cette victoire cette relance de la formation algérienne.
Merci bien Thierry, vous suivez Sporama, suivez Ouafrique, l'émission revient tout de suite. Le tirage au sort du mondial des moins de 20 ans a été effectué hier par la FIFA avec des groupes globalement abordables pour les quatre représentants africains. Le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria, les champions d'Afrique maliens, ont été logés dans le groupe E avec la France qui fera figure de favorite, le Panama et l'Arabie Saoudite. Alors Jules, ce n'est en principe pas la mer à boire pour les aiglons maliens, sur le papier en tout cas.
Oui, bien sûr, parce qu'il faudrait qu'ils négocient bien les matchs contre le Panama, l'Arabie Saoudite et face auxquels les Maliens vont favoris, dans la mesure où dans les compétitions jeunes, l'Afrique se retrouve généralement parmi les équipes les plus redoutées. Et donc, il faudra donc ensuite qu'ils jouent contre la France un match sérieux. Et là, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'auront pas une opposition de style. On sait que depuis quelque temps, l'équipe de France est une copie pratiquement des équipes africaines dans les catégories jeunes. Donc, les Maliens ne seront pas décisifs en ce qui concerne l'engagement physique. Donc, je crois que c'est une poule qui est à leur portée.
Et puis, ironie du sort, ou effet du hasard, le Sénégal hérite quasiment du même groupe que les A à la dernière Coupe du Monde avec la Pologne, pays hôte, la Colombie et seulement Tahiti à la place du Japon. Alors, Amdine, les Lyonceaux devront batailler un duel pour se tirer d'affaire.
Tout à fait, Yacouba, vous avez raison, les Lyonceaux qui sont logés dans la peau A, en compagnie de la Pologne, le pays hôte, la Pologne que les Lyons A, les Lyons avaient battu lors de la Coupe du Seigneur, et à la Colombie qui avait barré la route au Sénégal lors de la Coupe du Monde en Russie. Les Lyonceaux tenteront quand même de prendre la revanche à leurs aînés, et le Tahiti qui constitue le petit poutet. C'est un groupe abordable, il faut le dire. Il faut se méfier un peu du pays hôte et négocier contre la Colombie pour battre le Tahiti et ouvrir les portes quand même du deuxième tour, puisque le Sénégal avait réussi comme l'exploit. C'est deux participations et l'équipe était sortie de sa poule. L'équipe avait même pour sa première participation allé jusqu'à demi-finale. Donc les poulains de Youssou Dabo vont certainement prendre les conseils de l'ancien coach de Koutou pour pouvoir quand même créer un peu l'exploit, Yakuba.
Le Nigeria, lui, jouera les États-Unis, l'Ukraine et le Qatar. Alors, Élisée, parmi les adversaires des Nigérians, seuls les Américains sont habitués à se sortir de la phase de groupe, même s'il faudra se méfier quand même de la sélection qatari, ce qui est sur une pente ascendante, on va dire.
Oui, bien évidemment, mais c'est vrai que quand il s'agit de catégorie d'âge, on ne peut pas dire, bon, que les joueurs ont l'expérience qu'il faut, puisque si tu as 20 ans et que la Coupe du Monde arrive chaque deux ans, tu ne pourras plus jouer. Maintenant, le Nigeria fort de sa 12e participation à cette phase finale de la Coupe du Monde, il faut dire que quelque chose se fait à ce niveau. Et on se rappelle déjà que le Nigeria a déjà disputé deux fois la finale de cette compétition en 89 et en 2005. Maintenant, le Qatar, c'est vrai que depuis un certain moment, ce pays a commencé par faire quelque chose de sérieux. C'est vrai que, bon, il y a beaucoup d'étrangers qui ont été naturalisés, il faut le dire, puisque au niveau des seniors, l'équipe vient de remporter la Coupe d'Asie des Nations devant un grand favori, c'est bien sûr le Japon. Maintenant, quelque chose est en train de se faire au niveau des catégories d'âge aussi. Ça va être un peu compliqué pour le Nigeria, mais connaissant bien sûr ce pays africain, ça va être. En tout cas, les Nigériens vont essayer de négocier maintenant l'Ukraine et les États-Unis. Vous avez parlé des Américains. Les Américains sont toujours présents à chaque phase finale d'une Coupe du Monde, même si au niveau des cadets, au niveau des juniors, on voit qu'à ce niveau-là aussi, il y a un travail de fond qui s'effectue dans le pays de longue table. Maintenant, sur le terrain, il faut être beaucoup. Il faut avoir le niveau qu'il faut, j'allais dire, pour pouvoir passer cette étape, puisque chaque match sera décisif pour ces trois pays.
Être donc à 100% lors de chaque match. Alors Amine, ça s'annonce en revanche beaucoup plus compliqué pour l'Afrique du Sud qui hérite d'un groupe F très relevé avec l'Argentine, le Portugal et la Corée du Sud.
L'Argentine et le Portugal qui sont habitués à briller dans les compétitions de jeunes, qui ont un bon système de formation. On se rend compte là que le Portugal est souvent présent en première loge dans les grandes compétitions européennes et mondiales. L'Argentine a été tenante du titre dans l'édition 2001 et est habituée à exporter de nombreux jeunes. Et puis la Corée du Sud fait partie du quota du football asiatique. Donc, mission difficile pour les Sud-Africains. Ils vont devoir, bien évidemment, cravacher dur pour pouvoir se retrouver dans la seconde phase de la compétition. Il partira en outsider, ce sera peut-être un atout, puisque toute la pression sera sur le Portugal et sur l'Argentine.
Merci bien, Amine. La compétition, disons, aura lieu en Pologne du 23 mai au 15 juin prochain. Rappelons que les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes parmi les six groupes accéderont au huitième de finale. Lors de la précédente édition en 2017, on repart dans l'histoire donc, la Guinée, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Zambie avaient représenté l'Afrique en Corée du Sud. La Guinée et l'Afrique du Sud avaient été éliminées en phase de groupe, le Sénégal en huitième et la Zambie en quart de finale. Vous suivez toujours Sporama sur VOA Africa. Nous revenons tout de suite. Parlons à présent de cette demi-finale retour ce mercredi entre le Real Madrid et le Barça en Copa del Rey. Alors Thierry, c'est l'occasion pour le Real de s'arracher afin d'espérer un titre national cette année.
Absolument, surtout que cette Copa del Rey échappe au merengue depuis pas mal d'années maintenant. Elle est devenue pratiquement la chasse gardée des Blaugrana. Donc il faut absolument que le Real Madrid réédite le match qu'il a joué au match lors du premier acte de cette double confrontation au Camp Nou pour espérer avoir quelque chose, pour essayer de bousculer cette formation du Barça qui a encore démontré ce week-end face au FC Séville qu'elle avait des ressources, qu'elle pouvait en mettre autant à l'extérieur. Et surtout, rappelez-vous qu'à l'aller, en championnat entre ces deux formations, C'est vrai que le Real de Madrid n'avait pas encore la forme sous Lopetegui qu'elle a maintenant avec Solari, mais à l'aller, le Real avait quand même reçu un carton de son éternel rival. Donc les Merengues devraient absolument éviter le doute, mais j'ai quelques craintes au vu de la formation des deux dernières prestations du Real Madrid en championnat. J'ai l'impression que cette équipe manque encore de la constance. Elle a encore du boulot à faire pour espérer aller, on va dire, s'afficher au haut du tableau, tant en Ligue des Champions, en championnat qu'en Coupe du Roi. C'est un match qui reste ouvert au vu de la manche aller, mais je mettrai une toute petite pièce quand même sur le FC Barcelone, même si Lionel Messi et ses coéquipiers vont jouer à l'extérieur, au vu de leurs dernières prestations, tant en Ligue des Champions, même s'ils n'ont pas marqué à Lyon, qu'en championnat, avec la démonstration des forces qu'ils ont montrées contre le FC Séville.
Alors, Jules, parlant justement des dernières prestations de ces deux formations-là, on va rappeler que le Real et le Barça ont gagné ce week-end 2-1 pour le Real face à Levante, et le Barça avec un grand Messi qui a éclipsé le FC Séville 4-2. Il faut craindre parce que Messi quand même est revenu à sa meilleure performance.
Oui, bien sûr. Messi est actuellement sur un toit et après une légère blessure, il avait quelque peu regretté, mais pour mieux rebondir, et je crois qu'il arrive au bon moment pour ces rencontres. Le match contre le Real, généralement, et Barcelone le fait mieux à Madrid qu'à Barcelone, et dans la mesure où le Real doit attaquer et Barcelone est à l'aise face à des équipes qui ouvrent le jeu et contre lesquelles il peut étaler sa technique collective. Donc ce sera un match très, très disputé, mais aussi très agréable.
On attendra mercredi pour voir tout cela. On passe au basketball sans transition donc. La dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2019 sur le continent a livré les derniers qualifiés de l'Afrique. Il s'agit du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Les éléphants devaient remporter tous leurs 3 matchs du week-end. Et malgré des soucis liés au règlement de prime, les joueurs se sont impliqués en dominant le Nigeria, le Rwanda et le Mali pour se qualifier. La Côte d'Ivoire se qualifie donc comme meilleur 3e des phases de groupe, des phases éliminatoires. Et fait son retour en Coupe du Monde FIBA depuis 2010. Amdine, un seul succès suffisait au Sénégal à Abidjan et dès leur première sortie, les Lions se sont imposés. L'Angola, le Nigeria et la Tunisie avaient déjà validé leur ticket avant cette dernière journée, on va le rappeler.
Tout à fait, Yacouba. Après le tournoi de Maputo, de Dakar, de Lagos, Abidjan devait accueillir quand même le Gotha du basket africain pour jouer 2 tickets. Comme vous l'avez dit, le Sénégal avait besoin que d'une victoire pour composer son ticket et les Lions l'ont fait de fort bonne manière en dominant le Rwanda. Ils ont fait un parcours sans faute. Après, ils ont dominé les Aigles du Mali et le Nigeria. D'ailleurs, c'est une victoire significative puisque le Nigeria constitue la bête noire de l'équipe nationale du Sénégal. Mais l'information, c'est la qualification de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a relevé le défi de l'organisation et de la participation parce que les éléphants qui étaient en ballotage devant les Lions indomptables du Cameroun ont réussi un carton plein avec des scores très larges, ce qui leur permet quand même de décrocher cette qualification. Maintenant, le 5 majeurs africains est connu, vous l'avez dit, le Nigeria, la Tunisie, l'Angola, le Sénégal et la Côte d'Ivoire vont représenter quand même l'Afrique pour la Coupe du Monde qui va se dérouler en Chine durant l'été. Il faut dire que pour la première fois de l'histoire, cette Coupe du Monde de basket aura 32 quand même pays, va regrouper 32 pays et pour la première fois, ça va se dérouler dans une année impair parce que tout simplement la FIBA monde évite quand même la concurrence avec le mondial des footballeurs. Donc on attend cette Coupe du Monde, cette grande messe du basket mondial.
Merci bien. Merci bien, Amdine. Ce sera en même temps votre mot de fin. Je rappelle qu'on était aussi avec Amine Birouk depuis Casablanca, Thierry Kamboundi depuis Kinshasa, Élisée Mpatine depuis Boïcon au Bénin, Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Donc, il y avait aussi Kalfa Ouattara de notre confrère de la télévision nationale du Burkina, Sporama qui s'achève à la console Alfredo, à la réalisation le dieu Michel Joseph Firmé Koyaweda, Yacouba Ouidraogo vous a présenté ce numéro. On se retrouve lundi prochain.